Donc bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués, en particulier. Rappelle-moi ton prénom.
Aménine.
Donc bonjour à tous. On va peut-être prier avant de commencer l'étude du texte d'aujourd'hui. Seigneur, devant toi, notre chair est orgueilleuse, notre chair est hautaine. Notre chair s'élève. Et devant notre chair, Père Céleste, tu as placé un agneau. Un agneau dans la faiblesse, un agneau dans l'innocence, un agneau dans la pureté. Et Seigneur, cela nous confond. Que tu puisses répondre à notre orgueil par une telle humilité. Et c'est ainsi même que tu as vaincu le monde par quelque chose qui n'entre pas dans l'ordre du monde, un ordre du monde qui n'est fait que de violence et de domination. Et toi, tu nous as vaincus tout en douceur, en te présentant comme l'agneau de Dieu, en te présentant comme celui qui est aimant, celui qui était patient, celui qui est doux, celui qui est humble. Donc vraiment que cela soit cette image-là qui nous remplisse, qui remplisse notre imaginaire, que nous puissions toujours te percevoir comme ce Fils bénévolant qui a tout donné pour nous. Amen.
Amen.
Donc, un petit résumé par rapport aux deux premiers chapitres de l'Épître aux Galates, où on a vu que Paul voulait se présenter et quelque part se défendre à l'égard de tous ces judaïsants qui débarquaient à Galates, et qui prêchait un évangile qui n'était pas un évangile de grâce, mais un évangile basé sur la loi et sur les œuvres. Donc je ne vais pas résumer tout ce que l'on a dit, mais on a bien vu dans les messages précédents que Paul n'en avait que faire de la réputation des hommes, et il lui a même fallu, il a attendu 14 ans pour aller à Jérusalem, pour voir ce qui était considéré parmi les hommes, et encore n'y est-il allé que par révélation. De lui-même, il ne serait même pas allé. C'est pour dire que ce qui préoccupait Paul, c'était Jésus, ce que Jésus voulait lui dire et faire au travers de lui. Il n'était pas tant que cela préoccupé par les hommes. Mais bien évidemment, il fallait aussi tenir compte des autres apôtres qui étaient en place. Et à un moment donné, il va y avoir ce fameux concile à Jérusalem dont on a parlé la dernière fois dans Actes 15, où il a fallu bien expliquer à ceux qui étaient à Jérusalem quelle était la nature de l'évangile et en particulier de quelle manière est-ce qu'il s'ouvrait aux nations. Donc je ne vais pas reprendre tout cela. Donc à partir de maintenant, à partir de Galates 3, maintenant il pointe le doigt sur les Galates. Il va leur dire, mais attendez, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et c'est ce que l'on va voir ce matin. Au travers du chapitre 3, les 14 premiers versets. Et comme à l'habitude, donc, ça sera une traduction inhabituelle, puisque c'est traduit directement à partir de l'araméen. Donc les tournures de français seront un peu bizarres parfois, mais j'essaye de coller au texte. Galates 3, à partir du verset 1. « Ô Galates, manquant d'intelligence, qui est zélé, donc sous-entendu parmi les judaïsants, qui est zélé, animé d'un zèle envieux envers vous ? Car voici, pour ce qui est d'être peint, Jésus le Messie est celui qui a été peint par moi devant vos yeux comme étant celui qui est crucifié. Je veux seulement connaître ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit en conséquence des œuvres de la loi ou en conséquence de l'écoute obéissance de la foi ? Et je l'avais dit, à chaque fois qu'il y a le mot « foi », c'est la confiance et la fidélité. C'est un état et c'est une action. Est-ce ainsi que vous êtes insensés parce que vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous terminez par la chair? Avez-vous enduré toutes ces choses en vain? Plus au ciel que cela soit en vain. Parce qu'au moins ça justifierait l'état dans lequel les Galates sont. Avez-vous enduré toutes ces choses en vain? Oui, plutôt ciel que cela soit en vain. Celui-là donc qui a donné en vous l'esprit et fait par vous de puissants miracles, est-ce en conséquence des œuvres de la loi ou en conséquence de l'écoute obéissante de la foi? Comme Abraham s'est confié en Dieu, et cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ceux qui sont de la foi en Jésus, eux sont les fils d'Abraham. Car parce que Dieu avait connu d'avance que les nations seraient justifiées par la foi, d'avance il a annoncé à Abraham, comme dit l'Écriture sainte, « En toi seront bénies toutes les nations ». Donc, les croyants fidèles sont bénis avec Abraham, le croyant fidèle. Car ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Car il est écrit, « Maudit est quiconque qui ne met pas en œuvre tout ce qui est écrit dans cette loi. » Et que l'homme ne soit pas justifié auprès de Dieu par la loi, ceci est clairement révélé parce qu'il est écrit, « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi n'est pas conséquence de la foi, mais celui qui mettra en œuvre les choses qui sont écrites en elle, en la loi, vivra par elle. Or, le Messie nous a rachetés de la malédiction de la loi, et lui a été fait malédiction en échange de nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham soit pour les nations par Jésus le Messie, et que nous recevions la déclaration, la confession de la promesse de l'Esprit par la foi, confiance et fidélité envers Jésus et envers Dieu. Donc voilà le texte de ce matin. Donc je vais reprendre un certain nombre des éléments de ce texte et voilà, essayer de le commenter, essayer de l'enrichir un petit peu à partir d'autres passages, comme on le fait à l'habitude. D'abord, et c'est ce qui m'a fait penser la prière d'introduction, quand Paul est confronté à la folie des Galates, qui cherchaient leur justice dans la loi, sous l'influence d'un levain pharisien qui avait débarqué à Galate, il leur dit « Mais vous manquez d'intelligence. Pourtant, j'avais peint devant vous Jésus comme étant l'agneau sacrifié, l'agneau crucifié. C'est ce Jésus-là que je vous avais présenté. Non pas le Jésus créateur, le Jésus puissant, le Jésus bienfaiteur, mais le Jésus crucifié. » C'est ce qu'il dit aussi aux Corinthiens. Et de la même manière, les Corinthiens avaient un autre problème. Ils enflaient d'orgueil dans leur pratique des dons spirituels. Ils se pensaient vraiment supérieurs aux autres. Et Paul avait dû d'emblée, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2, dire quelque part la même chose que ce qu'il est en train de dire maintenant aux Galates. « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus le Messie, Jésus crucifié. » Et pour Paul, c'est la porte d'entrée de l'Évangile, Jésus crucifié. Parce que face à un Jésus crucifié, un Jésus affaibli, un Jésus humilié et révélé face à cela, l'orgueil de notre chair, par contraste. Si Dieu était venu à nous tout-puissant pour nous écraser, en entrer dans une forme de lutte et de compétition, là, il tue la compétition, il se présente comme l'agneau crucifié, l'agneau sacrifié, l'agneau humilié, et on ne peut que fondre devant ça, si le Seigneur touche notre cœur. Donc il est bon à voir dans notre imaginaire cette perception de Jésus comme étant celui qui est humble, celui qui est doux et humble de cœur. Et c'est intéressant qu'il insiste sur le Jésus crucifié parce que par là, il le présente implicitement comme étant l'agneau de Dieu, puisque c'était le Jésus crucifié, c'est le jour de la Pâque. Et donc, ça renvoie à cette offrande de l'agneau à la Pâque. Et ça, dès le livre de la Genèse, Abel l'avait déjà compris. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir que parmi toutes les choses que l'on range dans le meuble évangile, Abel n'avait compris qu'une seule chose, il y avait juste un petit tiroir dans lequel il était l'agneau, l'offrande des agneaux comme sacrifice pour le rachat de mes péchés. C'est la seule chose qu'Abel avait compris. Mais parce qu'Abel l'avait compris, son frère Caïn s'est élevé contre lui et l'a tué. Parce que Caïn, exactement comme les Judas lisant ici, il était dans les œuvres, dans l'accomplissement. Il était fier de présenter à Dieu le travail de ses mains, c'est-à-dire le fruit d'un sol qui avait été maudit, couvert de sa propre sueur, les efforts de l'homme. Et Dieu a dit non, ton sacrifice. Et à cause de cela, Caïn a tué Abel. Et à cause de cela, des religieux ont livré Jésus pour être mis à mort à la croix. C'est exactement le même esprit. C'est l'esprit de Caïn. C'est un esprit de meurtre. Parce que cet évangile basé sur un agneau sacrifié, un évangile basé sur la faiblesse, était une offense pour les religieux. Et c'est une offense pour notre chair. N'oublions pas que notre chair, par nature, est religieuse. Il faut toute la puissance de l'esprit en nous pour dépasser cette chair en nous qui cherche constamment à se justifier parce qu'elle est religieuse. Souvenez-vous de l'épisode du paralytique dans Matthieu 9, Marc 2, Luc 5. Quand Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés » et les religieux s'offusquent, c'est les religieux sont révoltés. Attends, mais qui est cet homme pour pardonner les péchés ? La dimension de l'agneau de Dieu. Il est agneau de Dieu. Il pouvait pardonner le péché parce que c'est son sang et par conséquent son âme qui a été répandue à la croix. Et voyez, ce salut par les œuvres, c'est la constante de toutes les religions. Remontons à l'Égypte ancienne où le mort, quand il se présentait dans le séjour des morts, il paraissait devant un dieu, je ne sais plus quel est son nom, Thoth je crois, qui avait une balance. Et on pesait le bien et le mal, le poids de l'âme face au poids de la plume. Voilà, c'est toujours cette notion de balance et de bien et de mal. Et d'une manière ou d'une autre, dans les religions, on espère qu'on a fait plus de bien que de mal. Hein? Ça, c'est la constante de la religion, c'est la constante de notre chair religieuse. On se mesure à ce que l'on fait pour Dieu, à notre prétention devant Dieu, et non pas à la mesure de l'humilité de l'agneau de Dieu qui s'est offert pour nous. Donc notre volonté, notre énergie, nos capacités, voilà, c'est nous, moi. C'est l'évangile du moi qui s'élève. C'est l'évangile de la chair. Quand il est dit « Qui est zélé d'un zèle envieux envers vous ?» Évidemment, Paul vise les judaïsants. Ce mot « zèle », vous savez que c'est le même mot, la même racine que le mot jalousie. Jalousie, zèle. C'est la même racine. Donc c'est assez curieux que dans les traductions, il est dit qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné, alors qu'il est question ici de ce zèle qu'avaient les judaïsants pour faire de leurs disciples des fils de la géhenne deux fois pire qu'eux. Ils voulaient faire des disciples à leur propre image et non pas à l'image de Dieu. Donc c'est ce mauvais zèle. Quand on veut convertir les autres à notre propre image, à notre propre théologie, à nos manières de faire, et on pense que comme ça, ils sont convertis. En fait, on passe complètement à côté, c'est le zèle de la chair. Romains 10, 2, « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » Ah oui, mais sans intelligence. Et c'est aussi dit Paul Galates, « Vous êtes sans intelligence. » Plus tard, il leur dira, « Vous voulez être sous la loi, mais vous ne comprenez pas la loi. » On le verra après. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. À cause de ce zèle sans intelligence. Le zèle de la chair, mais sans l'intelligence de l'esprit, une intelligence renouvelée par l'esprit de Dieu. Et donc, les opposants de Jésus ne supportaient pas que leurs œuvres soient ainsi dévalorisées aux yeux du peuple, parce que Jésus, lui, faisait ses œuvres par Dieu. Et il ne pouvait pas le nier. Vous vous rappelez Nicodème, mais nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Lui, au moins, il avait la franchise de le reconnaître. Les religieux ne voulaient surtout pas le reconnaître. Ils étaient zélés pour leurs propres efforts, pour leur connaissance de la loi, mais ils ne connaissaient pas l'intelligence venant de Dieu. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner, cet orgueil, cette prétention de la chair face à l'agneau de Dieu. Jésus dépeint comme crucifié. Donc, c'est très visuel. Hein. Je vous ai dépeint à vos yeux Jésus comme étant crucifié. Après, les versets 2 à 5 sont intéressants. Tout est intéressant, bien sûr, mais en particulier là, c'est peut-être le cœur de ce que je voulais dire ce matin. Parce que Paul va mettre en opposition deux choses. Il va mettre en opposition les œuvres de la loi d'un côté et l'écoute de la foi de l'autre. Il va dire, vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous voulez terminer par la chair. On peut se poser la question, mais comment peut-on commencer par l'esprit et terminer par la chair? Donc c'est ça que je vais surtout développer ce matin et un peu en relation avec des échanges avec Abdel hier. On est sauvé par l'écoute de la foi? Oh, c'est trop facile, diront les religieux. Quoi, il n'y a rien à faire, il y a juste à écouter? Non, évidemment, il n'y a pas qu'à écouter. Il y a un peu plus. L'écoute, c'est une écoute active. Et en araméen, mais également, je pense, en arabe, en hébreu, dans les langues sémitiques, écouter, c'est obéir. Quand je dis je t'écoute, ça veut dire je vais faire ce que tu me demandes. Il y a une notion d'obéissance. On en a parlé un petit peu au départ. Obéissance, soumission. Et ça, c'est quelque chose que les pharisiens, les religieux, la chair ne comprend pas. Parce que la chair produit ses propres œuvres. C'est moi qui décide ce que je vais faire pour Dieu. Je prends la loi et je décide des commandements auxquels je vais obéir. Et c'est très différent quand on marche par l'esprit. Parce que quand on marche par l'esprit, on n'a pas le choix des œuvres. Elles ont été préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais pour y entrer, il faut écouter la voix de Dieu. Vous voyez ? Les œuvres de Dieu ne sont pas à la portée de la chair. Il faut être dans l'écoute, dans la communion avec Dieu, pour qu'on soit ensuite conduit dans les choses que Dieu a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions, Éphésiens 2. Donc, j'allais dire, voilà qui est bien plus difficile que de prendre le temps d'écouter Dieu, plutôt que de dire par soi-même, mais voilà, tac, 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 on fait ceci, on fait cela, pour l'Église, pour Dieu, pour l'évangélisation, et on commence à mettre des tas de stratégies en place dans tous les sens, et évidemment, on demande juste à Dieu de bénir quand même. On est chrétien, donc je décide et je demande à Dieu de bénir. Voilà, plutôt que je m'assois, j'attends que le Seigneur parle, et ensuite j'obéis, et je fais ce qu'il me demande. Pas plus, pas moins. Et ça, c'est une discipline, c'est une habitude. Au départ, ce n'est pas forcément évident, mais ça se met en place. On apprend à écouter et de ne pas faire plus que ce que le Seigneur demande. Et souvent, c'est déjà bien assez. Donc, voilà qui est plus difficile. Si on ne connaît pas Jésus. Et donc, c'est le problème des religieux. Les religieux ne connaissent pas Jésus. Et donc, pour eux, entendre la voix de Dieu pour savoir ce qu'il faut faire, comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont plutôt chercher des intermédiaires. Tiens, qu'est-ce que tu penses de la... C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on commence à se mettre des intermédiaires parce que soi-même, on n'entend pas la voix de Dieu. La petite voix subtile qui parle dans le silence. Donc, c'est difficile si on ne connaît pas Jésus. Mais c'est bien plus facile que la loi, puisque le joug de la loi, même les judaïsants ne pouvaient pas le porter, acte 15, c'est beaucoup plus facile si on apprend à le connaître parce que son joug est doux et léger. C'est ce qui s'appelle dans la parole la marche par l'esprit. Être conduit par l'esprit. Et être conduit par l'esprit veut dire que nous n'avons pas l'initiative. C'est Dieu qui a l'initiative. Et nous, notre part, c'est d'obéir. Et comment se fait le lien entre les deux? Il se fait par... Alors ça, je vous le dis souvent et je le répète à chaque message. Vous savez qu'entre ceux qui veulent tout faire pour Dieu et ceux qui pensent qu'on ne peut rien faire pour Dieu, il y a la troisième voie, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est la recherche de la communion avec Jésus. Et de ce cœur à cœur-là, le reste découle. La marche par l'esprit découle. Donc entre ceux qui veulent tout faire pour Dieu et se saisissent de tout, et ceux qui pensent, c'est presque une vision fataliste, « Ah, mais Dieu est tout puissant, c'est lui qui fait tout, et malheur à moi si je fais quoi que ce soit, parce que ça va être une œuvre !» Voilà, la troisième voie, non, nous avons une chose à faire. Nous avons à communier avec le Fils, à le rechercher, à le désirer, et en fait, de là, de cette petite chose, découle en fait tout le reste. Et donc notre chair doit passer par un goulot d'étranglement pour arriver à se dessaisir de tout ce qu'elle veut faire par elle-même, de telle manière à ne plus trouver sa joie et son plaisir que dans la communion avec Jésus, l'agneau de Dieu, le Fils du Dieu vivant, la contemplation de qui il est dans sa divinité, dans son incorruptibilité, dans son caractère doux et humble, et découvrir toujours plus qui il est, et ensuite on est conduit. C'est le secret de la marche par l'esprit. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas une histoire de niveau spirituel qu'il faut atteindre, c'est exactement l'inverse, c'est se dépouiller pour qu'il n'y ait plus qu'une seule chose, la communion avec Jésus. Et la seule chose qui importe, c'est celle-là. Et quand on en est réduit à ça, l'horizon s'ouvre et Dieu nous conduit. C'est assez frappant quand il dit « Vous avez commencé par l'esprit et vous voulez terminer par la chair ». Alors là, on pense à plusieurs exemples. Évidemment, dans la parole, ce n'est pas un sujet que je vais développer aujourd'hui, parce que là, ça demanderait vraiment un message en soi. Mais on pense à Saül, comme on l'a dit ce matin, qui a été loin, et pourtant il a mal terminé. On pense à Joas, qui tant qu'il était sous la tutelle du sacrificateur Yehoiada, je crois, Joas marchait fidèlement avec Dieu. Mais quand son tuteur est mort, l'intermédiaire est mort, est disparu, voilà qu'il y a toute sa chair qui apparaît. Ça a bien commencé, ça a mal fini. Dans un cas, il y avait une onction, dans l'autre cas, il y avait un tuteur, mais à un moment donné, la désobéissance fait que la chair se manifeste. Et c'est un peu la même chose avec les Galates. Parce qu'ils avaient entendu la prédication, ils avaient entendu ce Jésus qui était mort pour eux, qui avait été crucifié à la fois. Leur cœur a été touché, leur intelligence a été touchée. Et puis voilà qu'il y a un levain qui vient de l'extérieur et qui commence à mettre le bazar là-dedans. Et il leur dit, celui qui a donné en vous l'esprit et a fait de puissants miracles parmi vous, est-ce que c'est par les œuvres de la loi, par vos efforts religieux, ou est-ce que c'était en conséquence de votre écoute, obéissance? Vous avez entendu la voix de l'agneau et vous avez commencé à le suivre. À petits pas, mais vous avez commencé à marcher avec lui, et voilà que Dieu a manifesté son esprit par des signes, prodiges et miracles. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Et donc là, je vais creuser un peu plus des choses dont on a parlé hier. C'est le rapport à l'esprit. Parce que là, le problème des Galates, c'est le rapport à l'esprit. Paul dit dans 1 Corinthiens 12, que j'ai relu ce matin, « L'esprit répand ses dons, donne ses dons, comme il veut. » Donc le premier point qui est important, c'est l'esprit qui a l'initiative, ce n'est jamais nous. Et donc vous ne trouverez jamais dans la parole, un homme qui dit à l'esprit ce qu'il doit faire. C'est toujours l'esprit qui a l'initiative. Alors creusons un peu la question. Dans la parole, nous avons une représentation, alors j'ai employé un mot compliqué, je vais le traduire, une représentation anthropomorphique, c'est-à-dire à forme humaine de Dieu, tout simplement par Jésus. Jésus, le Fils du Dieu vivant, de toute éternité au sein du Père, est sorti, c'est une image évidemment, et est devenu un homme. Il est devenu l'image visible du Père invisible. Et par association, autant nous pouvons nous représenter Jésus, puisqu'il est devenu un homme, nous pouvons également nous représenter le Père en tant que Père du Fils. Et il apparaît par exemple explicitement dans Apocalypse 4 et 5. On voit un vieillard sur le trône, et chapitre 5, l'agneau de Dieu, le Fils, qui se présente devant le Père. Donc, on a des représentations anthropomorphiques du Père et du Fils. Mais quelles images donnent la parole de l'Esprit? Question à l'Assemblée. L'Esprit dans la parole apparaît sous quelle forme?
Le feu.
Le feu? Plus précisément, comment?
Des langues de feu.
Comment?
Des langues de feu qui semblent...
Oui, à la Pentecôte. Je pensais à une autre image des flammes.
Le vent.
Alors, avant le vent. Alors, dans l'Apocalypse, les sept lampes qui brûlent devant le trône de Dieu, c'est une image de l'esprit. C'est un peu comme la menorah, le chandelier à sept branches devant le temple, ça signifie la présence de l'esprit. Ensuite, j'ai entendu le vent, tout à fait, il est comme un vent, comme un souffle, ruach. Une colombe au moment du baptême de Jésus. Vous verrez qu'il n'y a pas de représentation anthropomorphique de l'esprit dans la parole. Donc non seulement il n'y a pas d'exemple dans la parole de quelqu'un qui s'adresse à l'esprit, mais qui plus est, il n'y a pas de représentation dans la parole de l'esprit. Et quand l'esprit est associé, il peut l'être par exemple avec le Père et le Fils. Nous baptisons au nom d'eux, nom singulier du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais ce n'est pas de l'esprit individuellement. Et on ne s'adresse pas à l'esprit, il n'y a pas de représentation humaine de l'esprit. Donc gardons cela en tête. Je peux aller évidemment beaucoup plus loin que cela. Pourquoi maintenant la parole ne permet pas, je pense, de s'adresser directement à l'esprit? Il y a deux raisons fondamentales à ça. La première, c'est quel est le rôle de l'esprit? En fait, par rapport au Père et au Fils, l'esprit a un rôle différent. On sent qu'il y a une différence. Et cette différence, c'est parce que l'esprit, c'est celui qui unit le Père et le Fils. Ça, je vous l'avais dit déjà dans un message il y a assez longtemps. C'est celui qui oriente le regard du Père vers le Fils, qui oriente le regard du Fils vers le Père. Et c'est pour ça qu'il est appelé à la fois Esprit du Père et Esprit du Fils. Vous avez les deux expressions dans la parole. Et il est dit dans la parole, le Père aime le Fils, par l'Esprit, sous-entendu, et le Fils aime le Père, par l'Esprit. Mais vous ne verrez jamais dans la parole, le Père aime l'Esprit, ou l'Esprit aime le Fils. Ça n'existe pas dans la parole. Et c'est pour ça que pour ma part, je ne parle jamais de Trinité, et en particulier quand on commence à en faire des formules mathématiques, on a l'impression que les trois sont un peu interchangeables, et que puisqu'on peut prier le Père et on peut parler au Fils, alors on peut parler à l'Esprit. Et voilà qu'on va déjà au-delà de la parole, parce qu'on a fait une jolie formule dans notre tête. Mais évidemment, Dieu est trois et Dieu est un. Comprenez bien. Mais c'est quand ça commence à devenir des concepts un peu philosophiques, ça nous fait aller au-delà de la parole. Et j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, un message en ce sens... Dieu est à la fois Père et Esprit. Si on prie les deux premiers, on peut donc prier le troisième. Non, on va déjà au-delà de la parole. Et la raison, et c'est le deuxième point, pourquoi il faut faire attention à ça. Alors là, je vais choquer certains. Qui cherche à contrôler les esprits? Qui cherche à parler aux esprits et à contrôler les esprits pour que les esprits fassent la volonté de l'homme? Ça s'appelle comment ça? Ouais.
Voilà.
Donc les magiciens et les sorciers. Le but, c'est un rapport de domination et d'utiliser les esprits et de parler aux esprits pour contrôler les choses.
Aussi.
Comment?
Les cartes anciennes.
Voilà, mais toute cette dimension donc qui est vraiment interdite dans la parole. Donc la question est la suivante, et je cesse avec ce sujet-là. Donc je sais que ce que je dis peut être un peu controversé, mais à force de parler à l'esprit, il faut bien savoir que, en étant en désobéissance à la parole, qui ne nous y invite jamais, à un moment donné, on peut se poser la question, quel est l'esprit qui répond? On a dit tout à l'heure, la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'était peut-être pas exactement ce verset-là qu'on a dit. On parlait de Saül. Qui c'est qui a lu le passage l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Voilà, c'est ça. Et alors, je ne sais pas si c'est dans ce passage-là ou dans un passage parallèle où il est dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, par la désobéissance, on s'ouvre à d'autres esprits. Voilà. Donc, faisons attention à ça. Quand, je vous l'ai dit, je crois, la dernière fois ou une des fois précédentes, quand la parole nous invite à garder la parole, c'est exactement le mandat qui avait été donné à Adam dans le jardin d'Éden, où lui était dit non seulement de cultiver le jardin, mais également de le garder. Et quand on lit ça dans Genèse 2, on se demande mais de quoi fallait-il garder le jardin? Et dans Genèse 3, on comprend qu'il y a un serpent qui est entré dans le jardin où étaient Adam et Ève et qui a commencé à parler avec Ève. fallait garder. Et comment fait le serpent pour tordre, pour séduire et corrompre? Il tord la parole. Comment fait-il pour tordre la parole? Il ajoute à la parole et il retranche de la parole. Voilà. Donc, si la parole n'emploie pas certaines expressions ou certains exemples, il y a une raison derrière, même si on ne la comprend pas. Donc, faisons attention, parce que en faisant cela, on se fait l'égal de Dieu et on s'élève. En fait, l'évangile qu'on annonce, c'est moi, moi, moi. Ce n'est pas Jésus, Jésus crucifié. C'est moi puissant, moi spirituel, moi fort. Voilà, faisons attention à ça. Quand on est en désobéissance, c'est la chair qui prend le dessus et qui commence à s'élever. C'est parce que Jésus avait été dépeint comme crucifié, aux yeux des Galates, qui avaient entendu le message de l'évangile, que l'Esprit avait été libre pour faire de puissants miracles. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher les miracles. Parce que là encore dire, venez dans la tente d'évangélisation, ce soir Dieu va faire des miracles. Ah bon? Dieu obéit à l'homme? On peut faire un programme de ce que Dieu va faire? Vous voyez le problème? Non. On se met à la disposition de Dieu et c'est Dieu qui, par révélation, dans son initiative, nous conduit ensuite dans telle ou telle chose. Et s'il a envie de faire un miracle, il peut le faire. Donc, ne soyons pas incrédules, il peut le faire, mais c'est sa volonté, pas la nôtre. Et on ne peut certainement pas lui dire, en lui tordant le bras, ce qu'il doit faire. Hein? Là, on glisse dangereusement dans la magie. Donc, faisons attention à ça. L'autre caractéristique de la chair, c'est de vouloir se sécuriser. On commence par l'esprit et on termine par la chair. Comment ? Parce qu'on veut se sécuriser. Il y a plein de manières de le faire. On peut se rassurer par la doctrine. Et voilà qu'on devient préoccupé d'avoir la bonne doctrine, la bonne théologie. Parce que ça, c'est quelque chose qui est à notre hauteur. C'est ce que je comprends dans ma petite boîte. Vous voyez ? Donc là, on se rassure. On maîtrise la théologie. On maîtrise la doctrine. C'est à ma hauteur. Je ne suis plus dans la dépendance à Dieu. Je réduis la parole de Dieu à ma propre théologie. Et ensuite, au lieu d'annoncer la parole, j'annonce ma théologie. Vous voyez, là, c'est subtil, hein ? Mais ça nous rassure. Ou alors, nos expériences spirituelles. Alors, quand on marche avec le Seigneur, il y a des expériences spirituelles. Il y a des manifestations de la providence. Il y a des signes. Il y a toutes ces choses-là auxquelles on peut être sensible. Mais si c'est là pour nous élever et pour nous faire enfler, voilà, on est dans ces expériences et on se rassure parce que je vois ces signes. Ah oui, et s'il n'y en avait pas, est-ce à dire qu'on n'aurait pas de foi? Qu'est-ce qu'il est dit de Jean-Baptiste? Vous vous souvenez de ce qui est dit de Jean-Baptiste? Il était dit qu'il n'avait fait aucun miracle, mais tout ce qu'il disait de Jésus, l'agneau de Dieu, était vrai. Donc le critère du fait que Jean-Baptiste était rempli de l'Esprit, ce n'était pas qu'il faisait des signes, des prodiges et des miracles, c'est que tout ce qu'il disait de Jésus était vrai. Ça, c'est le point important. Deutéronome 13, « Si un prophète ou un songeur de songes vous annonce un signe, et que ce signe s'accomplisse, et qu'ensuite il vous dise « Allons vers d'autres dieux, des dieux que vos pères n'ont pas connus, alors vous saurez que c'est un faux prophète. » Pas parce qu'il y a eu accomplissement des signes, mais parce qu'il a tenté de vous entraîner vers un autre dieu. C'est ça le critère de la fausse prophétie. Ce n'est pas les signes, les prodiges et les miracles que même les magiciens de Pharaon pouvaient, à un certain niveau, reproduire. Donc faisons attention à ça. Le critère de vérité, La marche par l'esprit, le rapport à l'esprit est un rapport de vérité. Et c'est Dieu qui a l'initiative des dons spirituels, des miracles, des signes. Mais il faut que ça vienne par révélation. Ce n'est pas à nous de commander Dieu. Faisons attention à ça. Donc la loi nous centre sur nous-mêmes, la foi nous centre sur Jésus. Donc notre marche avec le Seigneur, c'est toujours une voie de dépouillement, d'humiliation devant Dieu, dans la prière et la repentance. Ça, c'est ce que nous devons faire. Mais on ne le fait pas par masochisme, parce qu'on a envie de se faire mal. On le fait parce que c'est ce qui élève Jésus à nos yeux. Et c'est pour ça que j'ai pensé au cantique tout à l'heure, à l'agneau sur son trône. Parce que pour moi, c'est un des cantiques qui élève Jésus, à l'agneau sur son trône, la gloire et la couronne. Voilà, c'est Jésus qui est élevé. Et tous les strophes, je trouve, sont absolument magnifiques. Ensuite, là, je peux aller un petit peu plus vite maintenant. J'allais dire, la suite de la parole de Paul est un peu plus technique et un peu plus simple du coup. Parce qu'il va dire, Abraham s'est confié en Dieu, cela lui a été compté par justice, sous-entendu, bah, vous faites de même. C'est en vous confiant en Dieu que votre foi sera comptée comme justice. Et non pas juste ou appartenant au peuple de Dieu à cause de votre pédigré. Ah, vous vous rappelez ce que dit Paul dans Romains 9, tous ceux qui descendent d'Israël, c'est-à-dire Jacob, ne sont pas Israël selon Dieu, et bien qu'ils soient de la postérité génétique d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants par l'esprit. Donc vous voyez, les pédigrés devant Dieu ne comptent pas. Et on a la même idée dans Jean 8. Alors dans Jean 8, ça va encore plus loin, parce que les religieux qui avaient cru en Jésus en voyant les miracles qu'il faisait, Jésus a immédiatement discerné ce qui se passait en eux et il a commencé à les challenger. Si vous étiez enfant d'Abraham, et il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et tout ça parce que Jésus leur avait dit, comment c'est formulé ? Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quoi ? Mais on n'a jamais été esclave de quiconque. C'est comme ça que Jésus voit immédiatement le problème chez ceux qui avaient, et je mets des guillemets, cru en lui. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, sous-entendu vous ne la connaissez pas, et vous serez libre, sous-entendu vous êtes esclave. Quoi ? On n'a jamais été esclave de personne. Et ça termine à la fin par « Vous avez pour père le diable ». Vous voyez, ça, Jésus, il déroule. Hein. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Oui, nous avons Dieu pour père. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, parce que je viens de Dieu. Voilà, et à chaque fois, il les coince, il les force à manifester en fait ce qu'il y a au fond d'eux. Ceux qui avaient cru. Donc vous voyez que quand les gens viennent et disent « Je crois en Dieu », de quelle foi parle-t-on ? Est-ce que c'est la foi obéissante dont parle Paul ici, l'écoute de la foi pour faire les œuvres préparées d'avance ? Ou alors est-ce que c'est juste une confession de foi parce que j'adhère à un credo ou j'adhère à une théologie ? Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Et ensuite, au verset 8, donc toujours sur le thème d'Abraham, Dieu donc avait connu d'avance que les nations parviendraient à la foi et il avait dit « En Abraham, je bénirai toutes les nations ». Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que ça montre bien que la bonne nouvelle du salut par la foi précède, au temps d'Abraham, le don de la loi sur le mont Sinaï. C'est-à-dire que la loi, c'est la parenthèse, la règle, c'est la foi. Depuis Abel, le premier qui est mentionné dans Hébreux 11, jusqu'à la fin quand Jésus revient. C'est la loi qui est une parenthèse, c'est la première alliance qui est une parenthèse. Et ceux qui pensent que la première alliance est encore agissante aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin, mais ceux qui pensent qu'elle est encore agissante aujourd'hui et qu'on peut s'en réclamer, en fait, sont en train de nier la nouvelle alliance. Regardez à nouveau Hébreux 7 et 8. Si la loi avait été parfaite, on n'aurait pas besoin d'une nouvelle alliance. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Non, la première alliance, elle est terminée. Et pour bien montrer qu'elle est terminée, le temple a été détruit en 70 de notre ère. Or, sans temple, on ne peut pas mettre en pratique la loi. Et il n'y a pas de pardon des péchés en dehors de la foi en Jésus. Gardons cela en tête. Donc, dès le livre de la Genèse, l'universalité du salut par l'Évangile, par la bonne nouvelle du Sauveur qui allait venir à l'époque et qui est venu de notre point de vue, l'universalité était déjà annoncée et pas restreinte à un seul peuple, mais pour tous les peuples, pour toutes les nations. Et enfin, là je vais aller vite, il n'y a pas de difficulté. Ensuite, Paul va renvoyer aux Galates les termes de la loi pour leur montrer en fait que Maudit est quiconque ne met pas en œuvre tout ce qui est écrit dans la loi, Deutéronome 27-26. Donc, effectivement, celui qui ne met pas en pratique la loi est maudit. Qui a pu mettre en pratique la loi ? Personne. Nous sommes charnels, et comme le dit Paul dans Romains 7, dès qu'on est confronté à la loi, c'est pour la transgresser immédiatement. La loi dit ne convoite pas, tac, ça y est, je convoite. Ne vole pas, tac, je me mets à voler. La chair, elle est comme ça, elle est rebelle à la loi de Dieu, elle veut garder son autonomie, elle ne veut pas se soumettre, et quand la loi dit ceci, la chair fait l'inverse. Et là où on le voit très très bien, c'est chez les enfants. Quand ils commencent à apprendre à dire non. C'est là que commence la manifestation de la chair. On dit une chose, l'enfant fait le contraire. Ouais, ça y est, la chair, elle apparaît là. Vous voyez, les petits enfants sont loin d'être des petits innocents. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que là, je vais vexer les parents. Mais voilà, on est entièrement dans le péché et on entre dans le monde entièrement dans le péché. Notre chair, elle veut se faire petit Dieu. Et elle veut dire à Dieu ce que Dieu doit faire, alors que non, nous entrons dans ce monde. Et nous sommes incapables de mettre en pratique la loi. Et pourtant, verset 12, « Celui qui mettra en œuvre les choses écrites en elle, vivra par elle. » Lévitique 18, verset 5. Qui est le seul qui a pu mettre en pratique la loi et qui a obéi jusqu'au bout à la loi ? C'est Jésus. C'est le seul qui n'avait pas cette nature de péché, cette autonomie. C'est celui qui était uni et relié à son Père, qui écoutait. C'est pour ça qu'il passait autant de temps dans le désert, pour écouter, pour savoir comment le Père allait conduire les choses. Il est resté dans cette obéissance. Il a mis en pratique la loi. Il a vécu par cette loi-là. Et ça, c'était insupportable pour les religieux et les pharisiens, qui avaient leur propre interprétation de la loi. Vous vous rappelez, j'ai dans le dialogue avec Jésus... la loi dit tu honoreras ton père ou ton père. Ah oui, mais vous avez trouvé des exceptions. Ah oui, mais si l'offrande que je voulais leur donner, c'est pour aller pour le temple. Alors là, on n'est pas obligé d'honorer son père et sa mère du bien qu'on aurait pu leur donner. Et par vos commandements d'homme, vous annulez la loi, vous rajoutez, vous retranchez. Ils rajoutent des commandements et ils retranchent la miséricorde de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, qui c'est qui est derrière ça ? Qui rajoute et qui retranche. Jésus est celui qui a pu vivre par la loi et qui a mis en pratique la loi. Mais alors dans ce cas, il n'aurait pas pu mourir à la croix. Il était juste, selon la loi. Et c'est pour ça que Paul dit, ah oui, mais la loi prévoit également cela, puisqu'il est dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Deutéronome 21-23. Pour dire, voilà, Jésus a pu devenir malédiction, parce que la loi déjà le prévoyait, qu'il devienne malédiction pour nous, alors même qu'il a obéi à la loi, et il a vécu par la loi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Celui qui ne met pas en pratique la loi est maudit. Ça, c'est nous. Et ça mène à la mort. Celui qui met la loi en pratique vivra, c'est Jésus. Et c'est le seul qui a pu le faire. Autrement dit, il ne suffit pas de croire que Jésus est mort à la croix, il a porté nos péchés, il est devenu malédiction pour nous. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut faire, et on revient toujours à la même chose. Il faut être uni à Jésus, il faut être attaché à Jésus. Il faut communier avec lui, il faut le chercher, il faut le désirer pour que tout ce qui est à lui et tout ce qu'il a acquis en tant que justice, en tant qu'homme, devienne nôtre. S'il n'y a pas union, il n'y a pas échange. Son péché, mon péché, porté par lui à la croix, sa justice qui m'est donnée. Voyez ? Donc, on en revient toujours à ce goulot d'étranglement. Il n'y a qu'une seule chose à faire, être uni à Jésus. Et c'est à la croix que Jésus a été déclaré coupable, Romains 5, 9. C'est là qu'il a été mis au rang des malfaiteurs, Marc 15, Luc 22, voilà, on trouve ces passages en citant Ésaïe 53, 12. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Il a été fait bénédiction pour nous, afin que nous soyons bénis par lui. Et le prix du rachat, quel est le prix du rachat de nos âmes ? Là, la parole. Qu'est-ce qui a payé pour nos âmes ? Je l'ai dit tout à l'heure. C'est son sang. En échange de nos âmes, il a offert son âme, puisque l'âme est dans le sang. En répandant le sang à la croix, c'est son âme qu'il a déversé pour nous. L'âme la vie. Et c'est ce que l'on célèbre à chaque fois. La chair et le sang, le corps et l'âme, le pain et le vin. C'est ce qu'on célèbre à chaque fois qu'on prend la scène. Il a offert son corps, il a offert son sang, son âme, il a offert sa chair, il a offert son sang. Et nous mangeons du pain et nous buvons du vin. Donc, en prenant le pain et le vin, on rend témoignage à cette humanité qu'il a donnée pour nous. Puisque parler de corps et de l'âme, c'est parler de l'humanité de Jésus, alors que son esprit, lui, est resté jusqu'à la fin, et d'ailleurs n'a jamais été séparé du Père. Je vous rappelle que juste avant de mourir, Jésus dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». L'esprit a toujours été là. Même si, dans son humanité, à un moment donné, la chair souffrait. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire. Dans cette union avec Jésus, n'oublions jamais que c'est lui la tête et que nous ne sommes que des membres. Hein, le pied ne va pas dire à la tête ce qu'il faut faire. C'est la tête, Jésus, qui va dire au pied, à la main, à l'œil, à l'oreille ce qu'il faut faire. N'oublions jamais ce rapport de hiérarchie parfaitement normal. Il est la tête, nous sommes les membres. Donc ne nous prenons pas pour la tête, que ce soit de l'Église ou de son frère ou de sa sœur, à commencer à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, comme s'ils ne pouvaient pas entendre par eux-mêmes la voix de Dieu. Hein? Ça, c'est, là encore, c'est un travers religieux que de vouloir... alors, il y a une expression anglaise pour dire ça, to boss, c'est-à-dire devenir le boss des autres, et de vouloir commencer à se faire d'une manière ou d'une autre l'intermédiaire entre nous et Dieu. Tous entendront la voix de Dieu, tous seront enseignés par Dieu, et faisons attention à ça. Et c'est en donnant, entre autres, ça c'est ma conviction, la parole à l'Assemblée, justement, que ça permet à chacun de pouvoir exprimer ce qu'il a reçu du Seigneur. Et ça crée une dynamique vertueuse. Donc, veillons à cela et à laisser Jésus à sa place, nous soumettant les uns aux autres dans la crainte du seul qui est en haut, c'est-à-dire Jésus. Amen.
Amen.